Eh bien, bonjour, bonsoir, bonne nuit si vous nous écoutez au fin fond de la nuit, comme Massa Béranger. Bonsoir. Donc, eh oui, nous revoici, nous revoilà, ce n'est pas une illusion, c'est bien le Barbecue Basket qui revient pour un deuxième numéro cette saison. Et toujours accompagné de son duo de flingueurs que sont Derrick Géranium.
Bonjour,
Bonsoir,
bonsoir à
Derrick.
tous. J'ai changé de maillot ce soir. C'est ce que je disais à Tony juste avant le début de l'émission. Je reste sur des équipes de vainqueurs sur cette saison, hein, les Brooklyn Nets. Énorme équipe s'il en est. Rendez-vous à la limite à la loterie cet été. Donc, non, peut-être pas. Ce n'est pas les pires, mais ils peuvent mieux faire quand même. Je pense que même eux, ils ne savent pas finalement ce qu'ils jouent.
Mais personne ne sait ce qu'il joue en fait. C'est ça qui est bien. C'est toujours une surprise perpétuelle à chaque match.
C'est
On peut le
ça.
dire. Et mon deuxième adjudant, mon deuxième sergent, mon petit jeune à moi, hein, parce qu'on a toujours besoin d'un petit jeune, notre cher Tony Parquet. Comment vas-tu?
Ben ça va et vous?
Ouais.
Les Lakers ont tapé les Clippers. Voilà, avec un gros match de LeBron James. Je me suis permis de pas moi mettre un maillot, un petit maillot pour notre cher roi. Qui, je sais pas, a fait un statement hier. Je pense qu'il a un contrat à aller chercher, apparemment.
Ça parle de 60 millions, mais tu sais pas si c'est à l'année ou si c'est sur.
Bah, j'aimerais bien que ce soit sur plusieurs années, mais j'ai bien l'impression que ça va être sur une année,
Et
et la dernière.
c'est 60 millions avec son fils ou sans son fils?
Alors ça.
Déjà, Bronny, à mon avis, tel que c'est parti, il est sorti des mock drafts de 2024.
Ah non, mais de toute façon, c'est pas
Ça
avant
partira
2025.
pour 2025, ouais.
Ouais.
C'est ça.
Donc on a encore grosso merdo au minimum 2 ans de LeBron.
Bon, profitons de ce
Profitons,
monstre, hein, parce
profitons.
que je pense qu'on ne se rend pas compte qu'à 39 ans et demi, la performance qu'il a lâchée hier, ça n'a aucun sens. Hein.
C'est monstrueux. À 40 points des 40 000.
Ouais. Continue d'écrire l'histoire.
C'est ça. Eh bien, on va avoir un bon programme encore ce soir. Alors, on aime bien prendre notre temps chez Radio Merguez. Donc, on va faire un peu un débriefing du All-Star, déjà pour commencer, en première partie. Hein. On va annoncer ce qu'on va dire aux auditeurs et aux auditrices. Donc, on va faire un petit point de All-Star, savoir ce que ça a donné, notre regard à nous. En deuxième partie, on va parler des Français du All-Star et surtout d'un Français, enfin un Français, un extraterrestre, une tarentule, un poulpe, que sais-je, on en parlera. Et puis après, on finira par un petit bilan justement au niveau de ce début, enfin de ce début, de cette saison, au niveau des autres joueurs français, pour finir tranquillement. On est parti?
Allez,
let's go,
Alors,
comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique.
le NBA All-Stars, c'est quoi? C'est une merguez? C'est un
C'est la fête
somnistin?
du basket. C'est la
C'est
fête du basket.
l'Oxapac?
Quelle
Mais
catastrophe, putain.
n'est-ce pas non plus une sorte de spectacle que tant de gens réclament, le fameux sport-spectacle, où en fait, et ben, tu n'as plus de sport et tu n'as que du spectacle et que ben, c'est voilà, c'est quelque chose où ben, quand tu enlèves toute l'essence même du basket sur un match comme ça, forcément, des joueurs comme Jokic et autres, ben, ils s'en fichent un peu. Alors après, c'est le concours du tir à 3 points pendant le match, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Bon, je vais commencer, ça va être rapide. Non, mais en fait, je sais, moi j'ai tendance à toujours. J'enregistre en fait les nuits et je les regarde le lendemain parce que j'ai pas envie de rester la nuit réveillé pour regarder tout ça. Et j'avoue que là, sur ce match, à la fin, je savais pas trop quoi en penser. Après, genre, j'ai pas non plus envie vraiment qu'on. On va pas le désosser, on va rester tranquille, mais je pense qu'il y a des choses à dire parce qu'après, techniquement, on a quand même vu des belles dingueries là quand le mec il enchaîne 2 tirs du milieu de terrain. Enfin, c'est dire en fait la facilité et le niveau de ces mecs-là quand ils sont détendus. tout ça. Moi, je pense à Damien Lillard qui est MVP et qui, en plus, beaucoup de gens le trouvent à l'envers cette saison. C'est vrai, c'est pas vrai. On en parlera dans une autre émission, c'est autre chose. Mais la crise qu'il a trois points pendant le match, enfin, elle est incroyable. Mais c'est vrai qu'après, d'un côté, enfin, ça fait vieux con. Et je sais pas pourquoi, moi, j'ai même pas vécu les années 90. Je suis né vers la fin. Mais, je sais pas. Enfin, c'est le fait que vraiment, genre, ça défend zéro, même à la fin. Ça me désole un peu parce que ça rend vraiment le truc pas agréable. Et pareil, les attitudes de certains joueurs. Enfin, on parle de Jokic et de Doncic. Alors, d'après certaines sources, qui avait peut-être un coup dans le pif pendant le match. Ah, j'y crois pas. J'espère vraiment que c'est faux parce que sinon, c'est vraiment dramatique pour l'image de la NBA, quoi. Mais moi, je pense que ce qui vraiment limite m'a chafouiné encore plus, en fait, c'est peut-être l'attitude d'Anthony Edwards, en fait, qui lui, justement, est tout jeune, vient d'arriver et s'est dit, je vais shooter de la main gauche tout le week-end. Je crois qu'il avait eu des déclats. Oh, oui, il faudra peut-être nous faire gagner plus de sous pour qu'on se motive. Enfin, et puis les 200 points passés, moi, c'est ça que je trouve vraiment genre catastrophique. Et la réaction d'Adam Silver quand il dit vous avez passé les 200 points, bravo. L'action, je pense qu'elle en dit long en fait sur le bilan un peu de ce match. Parce qu'après, bon, le concours de dunk, c'est une catastrophe depuis des années, donc on n'est plus à ça près. Le 3 points, ça reste un concours plutôt sympa. Quoi.
Mais. Et mon petit chat d'Eric, qu'est-ce que toi tu trouves ce All-Star surcoté depuis des années ou qu'est-ce que t'en penses toi qui a
c'est devenu moi j'avais vraiment souvenir quand même des All-Star où tu voyais des beaux gestes, ça envoyait du gros tomar et finalement ça colle aussi à la NBA actuelle, c'est-à-dire où t'as la moitié des actions c'est des tirs à trois points, finalement All-Star Game aussi. Vu qu'au All-Star Game, c'est pareil, on ne regarde pas le meilleur joueur, mais celui qui a marqué le plus de points. Et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as à l'Ouest un Stephen Curry qui enfile les points, et ben, à l'Ouest, à l'Est, tu es obligé d'y aller aussi. Et là, vu que Lillard il avait changé de crèmerie à la saison passée, voilà, ça se retrouve à ça. Mais Ty Liberton aussi, son début de match, ça envoie des trois points à la filée. Ça s'est un peu tiré la bourre avec Lillard. Normalement, quand on regarde les deux sélections, mais l'Ouest, mais extrêmement,
mais voilà, mais bien
totalement
sûr,
l'Est. Et là, aussi là le problème. Les mecs, ça joue pas. Le quatrième carton, LeBron, je sais même pas s'il le joue.
Mais
tu vois, il y a même quelques années, quand on repart en arrière, et c'est vrai que tu prends Doncic et Jokic, les mecs, ils avaient peut-être aussi un coup dans le nez, ils ont pas beaucoup joué, ça s'est vu qu'ils étaient, on va dire que pour être gentil, ils étaient fatigués, mais il y a quelques saisons de ça, Jimmy Butler, pareil.
Ouais, il avait pas joué du match.
Il même pas joué du match. Il avait.
Et moi, tu sais que je trouve ça honteux parce que.
Mais est-ce qu'il faudrait pas faire. Alors, je lance une idée comme ça. Je sais que la NBA nous écoute quand même de façon assez intensive. Il y a. On va prendre les cousins de la MLB, c'est-à-dire du baseball, qui ont aussi un All-Star en milieu de saison. Et qui, en fait, pour, on va dire, redonner du sens un peu à ce match-là. La Ligue américaine et nationale, c'est pas en Est et Ouest, c'est-à-dire c'est une Ligue américaine, une Ligue nationale, font un match et le gagnant de ce match fait que soit la Ligue américaine ou soit la Ligue nationale va avoir l'avantage du terrain pour la finale. Est-ce qu'on pourrait pas penser à ça, par exemple, se dire All-Star, l'équipe qui va gagner aura l'avantage du terrain, enfin, la conférence qui gagne aura l'avantage du terrain au niveau de la finale NBA. Et du coup, ça redonnerait non pas forcément de l'allant offensif, peut-être on va dire un intérêt défensif de se dire si l'équipe se soude, tu vois, de se dire on a une vraie équipe à l'Est qui va devoir défendre un peu plus pour, on ne sait jamais, hein, après un parcours à l'Est.
Justement, en fait, moi je trouve que l'idée n'est pas si bête que ça parce que si tu prends typiquement ce All-Star, en fait, là, on sait tous que techniquement, ça va être sûrement Boston, tu vois, qui va avoir l'avantage. Je pars du principe qu'ils vont arriver en finale NBA, tu vois. Mais ils sont tellement en avance, Boston, que justement, en fait, si tu instaures ce principe-là, tu peux justement avoir les mecs de l'Est qui seront plus là en mode, attends, les mecs, on va jamais les rattraper. Si on va avoir l'avantage, c'est maintenant, tu vois. Enfin, ça peut être une idée, mais c'est vrai qu'il y a eu des attitudes un peu cata. L'équipe de l'Ouest, elle a pas joué, alors que pour moi, en plus, il y a vraiment Il y a du vieux de la vieille, il y a des darons dans tous les sens qui, justement, eux, devraient avoir ce truc de... Moi, je me souviens de Kobe, Chris Paul, où en fait, bah, dès qu'on est ensemble au sort, juste on perd pas. Tu vois. Enfin, on est là pour le taper, le match. Il n'y a pas de rater les conneries.
Il y a encore quelques saisons, le dernier carton, les défenses remontaient parce qu'il y avait un match finalement à gagner. Quoi. Et c'est là que tu avais aussi un petit intérêt. Quoi.
Tu te souviens de Kyle Lowry qui provoque un passage en force pendant le All-Star Game il y a 3-4 ans. Tu vois, je sais pas, juste, enfin, bougez-vous sur le quatrième quart. Tu vois, même là, bon, ils avaient fait une comparaison sur je sais plus quelle émission. Ils avaient parlé du All-Star français. Bon, pas le même niveau, d'accord, ok. Voilà. Mais enfin, ça avait été détente tout le long. Par contre, quatrième quart temps, boum, allez. Et en fait, ils s'y sont mis et ça a joué, tu vois. Donc, bon, moi, je sais pas, c'est juste ce truc-là. Enfin, franchement, si vous avez pas envie de jouer, enfin, laissez votre place à des mecs qui ont envie de jouer. Là, tu me parlais de Jimmy Butler les autres fois. Jimmy Butler, là, son truc, pour moi, et moi, je suis perçu, et moi, c'est un truc que je maintiens depuis des années, ça coûte une étoile à Lou Williams, tu vois, qui n'en a jamais eu et qui, cette saison-là, est injouable avec les Clippers. Il met 50 pions dans un match, etc. Enfin, c'est l'équipe un peu juste avant Paul George et Kawhi, là, avec Shai Gilgeous et tout ça. Et Lou Williams, sur cette saison, il est injouable et il a des stats de All-Star, pour moi, et les Clippers sont dans la course à playoff, donc ça mérite un représentant. Et il finit par pas être sélectionné et Jimmy Butler joue pas. À côté. Il joue pas du match, on voit même pas. Je crois limite, à la rigueur, il le start, tu vois. Il joue 30 secondes et en fait, après, il va s'asseoir. Donc, je sais pas, enfin. Bref.
Mais est-ce que aussi, et pour finir un peu ce début du All-Star, est-ce que le score aussi, qui a été salué par certains, on va dire, n'indique pas, on va dire, où veut aller la NBA, c'est-à-dire de plus en plus vers des gros scores, et est-ce que les gros scores sont une bonne image pour l'NBA. Là, on va parler de façon en excès où il y a plus de 200 points pour l'équipe de l'Est, mais quand on analyse un peu les scores depuis le début de saison, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de gros scores qui apparaissent. On peut se poser des questions en fait sur que veut la NBA par rapport à ça, par rapport, on va dire, au niveau défensif des équipes et savoir comment tu peux défendre aussi parce que ben. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Derek.
Ben, ce qu'il y a, le souci, c'est que tu ne sais plus si tu as des gros scores parce que tu as juste des monstres qui peuvent t'envoyer des 70 points comme les Embiid, voilà. On a juste aujourd'hui, on a quand même une ligue qui est une ligue ultra offensive. Mais parce qu'il y a des joueurs, monstrueux, quasiment toutes les franchises, même les plus pourries, elles sont capables d'avoir des joueurs qui peuvent scorer 30 points dans un match, quoi. Donc, après, t'as certaines équipes, elles en ont même plusieurs, quoi. Donc, quand t'as des KD, des LeBron, des Lillard, des Giannis, des Doncic, des Embiid, des Tatum, tiens, allez, on a une soixantaine de joueurs à énoncer. Les mecs, ils sont monstrueux. Mais j'ai l'impression aussi, et ça rentre un peu dans ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit que la NBA, la saison régulière, ne sert à rien. Parce que il y a pas de défense, ça attaque, comme tu disais aujourd'hui, voir un match qui se finit avec 300 points accumulés, c'est plus forcément aussi rare. Des blowouts où tu as une équipe qui se prend 50 points d'écart, on en voit, alors que ça t'en voyait pas avant. Ouais, je trouve ça. Alors après, tu tombes sur une équipe qui est vraiment en réussite. Et l'autre qui cherche à tanker comme un gros sale pour aller être bien positionné à la loterie pour la draft. Et ça, tu as quand même quelques équipes en NBA, là, t'en as au moins 6 ou 7 qui sont dans cette optique-là. C'est un petit peu dommage. Mais après, c'est un peu l'évolution de quasiment tous les sports. La NBA était déjà quelque chose d'ultra highlights. Elle s'est même fabriquée là-dessus, hein, c'est-à-dire que dans les top 10, en général, tu as quand même plus d'action avec des dunks et des tirs du milieu de terrain que des contre la planche, quoi. Donc, ça s'est basé là-dessus. Et c'est vrai que tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais un Rudy Gobert, il ne peut pas avoir d'étoile All-Star plus qu'il en a déjà eu, parce que, bah, justement,
trop défensif.
il est trop défensif. Il est
même Sabonis, on n'a pas eu.
Mais voilà, mais Sabonis, c'est un scandale qu'il ne soit pas All-Star. Mais après, le front de court côté ouest est tellement monstrueux que c'était compliqué à choisir.
Ouais.
Donc voilà, c'est un petit peu le souci, mais je pense que c'est quasiment dans tous les sports. On a tendance à plutôt valoriser, en foot, on valorise le but. En hand, c'est pareil. En hockey, c'est pareil. Ouais, mais les actions défensives, on ne te les montre pas.
Mais non, mais c'est...
On te dit, il y a eu, ça a été un beau match parce qu'il y a eu 5 buts. Ouais. C'est-à-dire qu'un match avec 0 but, les télés, elles ont quasiment rien, elles n'ont pas de highlights à montrer. Il faudra qu'elles parlent de jeu. Ah bah, c'est plus compliqué de dire que le match a été super parce que tu as eu des gardiens et que, ou que ça s'est bien battu au milieu de terrain, ça n'a pas laissé d'espace.
Mais il y a des gardiens au basket ?
Non, il y en a en foot, en hand, en hockey sur glace.
Non, Tony, pour finir un petit peu aussi.
Bon, rapidement, en vrai, je vais pas te dire grand chose de plus parce qu'il a tout dit.
Tu plus sois notre direct national.
Oui. Non, mais en vrai, il a raison parce que le truc, c'est que tu veux ramener des gens. Comment tu ramènes des gens, les highlights ? Comment tu fais des highlights ? C'est des paniers. Même, tu regardes un match. Je sais pas, moi, tu vois, le mec, il met 42 points. Si en face, il y a un mec qui a fait 7 contre, on s'en fiche. Il a mis 42 points, il a gagné, tu vois.
Donc, sauf s'il fait un triple-double avec.
Ouais, bon, c'est vrai que si après, il y a une belle dinguerie, genre un beau 5x5 ou un truc comme ça, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sinon, sur le principe, en fait, c'est le scoring à outrance. Et après, je pense que c'est comme pour le foot, le basket, etc. Le but, c'est de mettre des points. Donc en fait, et le truc c'est qu'on a des attaquants qui ont de plus en plus un volume de jeu incroyable, et je pense qu'en fait malheureusement on va rien pouvoir y faire. En fait, la seule chose qu'on pourrait faire à la rigueur, tu vois, c'est peut-être être plus dur sur les sifflets pendant les matchs, ou à la rigueur être moins dur justement et permettre aux mecs de pouvoir défendre un peu plus durement, tu vois, justement, et pas plus dur, enfin juste peut-être moins dur. Bon, après, il ne faut pas non plus plaquer les jambes comme Dante DiVincenzo il a fait il y a deux jours là, avec, contre Détroit. Mais genre, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Donc, je pense qu'il y a tout un taf de la NBA qui doit se faire là-dessus. Peut-être au niveau aussi des directions d'arbitrage, permettre de défendre un peu plus durement. Là, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui où Dylan Brooks, pour perturber un tireur à trois points, il a trouvé une nouvelle magouille qui marche. C'est en fait comme les mecs qui gardent leur poignet en l'air quand ils tirent. Bah, Dylan Brooks, il finit son mouvement et il vient faire un high five au tireur. Et en fait, c'est légal. Et le truc, c'est qu'apparemment, ça marche. Tu vois. Donc, je comprends pas. T'as quand même l'impression, trois quarts du temps, que dès qu'on touche un mec, il y a faute. Et là, l'autre, il saute et il fait des high-fives au tireur. Tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, pour moi, il y a des solutions. Mais je pense que clairement, à un moment, ça ramènera du monde si ça continue à envoyer des gros scores comme ça. Par contre, pour les gens qui regardent depuis un moment et qui aiment ça depuis longtemps, etc., je pense que ça peut devenir un peu chiant. Enfin, on veut que la saison régulière elle serve à quelque chose. Tu vois. C'est vrai que moi, je suis très très curieux de voir les scores en play-off. Est-ce que en fait, c'est là qu'on va savoir si en fait les mecs sont vraiment devenus des attaquants de malades mentales et qu'on ne peut rien faire, ou alors en fait là, les défenses vont se resserrer bien comme il faut, les gens vont être plus tendus et on va retrouver des bon, on ne retrouvera pas des matchs à moins de 200 points. Hein, faut arrêter les conneries, mais je sais pas, peut-être au moins des scores beaucoup moins. J'espère qu'on verra pas de scores à 140 points en playoff, quoi. Vraiment, j'espère vraiment pas. Ça me fait chier.
On en a eu l'année dernière. Hein. On a eu des blowouts à 50 points d'écart. Hein.
Ouais, mais moi je trouve ça dramatique. Enfin, je préfère avoir en vrai, quitte à avoir des gros scores comme ça, autant des matchs serrés sans que ça défende. Tu vois.
Après, ça peut être aussi, ça dépend de la gestion de. Parce que les matchs sont tellement nombreux que tu vas gérer ton effectif, et si tu vois que tu perds ton match, vaut mieux limite complètement le.
Le laisser tomber et attendre de revenir au match d'après. Ouais.
C'est les gestions. Mais vous m'offrez des belles passes décisives, mes chers sergents, parce que quelqu'un qui va faire beaucoup de highlights dans les prochaines années, quelqu'un qui va beaucoup scorer, qui va faire beaucoup de stats, on va quand même se parler un petit peu de quelqu'un qui a fait son premier All-Star, alors, premier All-Star rookie, mais premier All-Star quand même. Son premier All-Star Weekend, notre Victor National, notre Victor Wembanyama. Extraterrestre, comme je le disais, je n'ai pas de mots. sincèrement, on va faire une petite partie un peu, si on peut, si un temps soit peu, on peut analyser son jeu, parce que c'est tellement incroyable ce qu'on peut voir pour une première saison avec l'équipe qu'il a. Il faut se rappeler quand même qu'il n'a pas des basketteurs, hein, il a des gens qui jouent avec lui. Je ne sais pas si c'est des handballeurs.
C'est une équipe de peintres qu'il a, franchement.
Et je me dis, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il arrive limite à faire gagner son équipe simplement parce qu'il est là. C'est assez extraordinaire ce qu'on est en train de voir.
Il ne fait pas gagner souvent son équipe non plus.
Il les a fait gagner 11 fois.
Mais quand tu regardes, moi, ce qui m'a impressionné, par exemple, le match face au Lakers, c'est là où il fait son 5-5, justement.
Ouais.
Quand tu regardes le match, je l'ai revu sur Bein, ils se prennent des. Ils sont à chaque fois des moins 10, moins 15, moins 20 même. Ils rentrent sur le terrain, et ben ça bascule à moins 5. Ils sortent, ça bascule à moins 20. Ils rentrent, ça revient un peu. C'est-à-dire que. Tu sens qu'en fait, il arrive en plus à tirer. Alors, je ne sais pas, on va commencer un peu à analyser justement le début de saison de Victor, enfin, le début de carrière en NBA de Victor Wembanyama. Mais ça me laisse pour toi. Ça fait très, très, très longtemps que je ne suis pas devenu fan d'un joueur. Et ce que je vois, je suis à chaque fois extatique quand je le vois jouer et je me dis qu'il a à peine 20 ans, qu'il a à peine 50 matchs de NBA et en plus des moitiés de matchs. Et ce qu'on est en train de s'apercevoir, je me dis, bah, on a connu LeBron, on a connu Steph Curry, on a connu Kevin Durant. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la naissance d'une nouvelle étoile?
Si. Mais en plus, tu sais, c'est un nouvel archétype de joueur, tu vois, parce que le mec, il met une tête au plus grand, quoi. Ça n'a aucun sens, sauf qu'en fait, il met une tête au plus grand et il bouge comme les plus petits et il shoot comme les. Le mec, il te dit, tu vois, moi j'ai étudié Kevin Durant, mais tu m'étonnes, ils ont tellement le même genre de morphologie, sauf que l'autre, il lui met 10 cm, quoi. Et en fait, il a. Bon, moi, les gens qui étaient là, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec quelques personnes et qui me disaient. Oui, non, mais de toute façon, ça va flopper ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Et je sais que moi, j'avais vu très vite, si vous vous attendez à ce que le mec les amène en playoff à lui tout seul dès sa première saison, oui, ça va flopper. Parce que c'est pas une équipe de basket, c'est une équipe de peintres. Et j'ai rien contre les peintres, respect à vous. Mais au bout d'un moment, il faut parler sérieusement. Le truc, c'est que à San Antonio, pour l'instant, Là, ils l'ont repositionné en 5 parce qu'il avait commencé en 4 au début, c'était un peu plus chiant pour lui, mais là en 5, je pense que clairement, il doit y rester autant qu'il peut, on a vu. Moi-même, au début, j'avais peur un peu au niveau des rebonds. Au final, le mec, il prend sa dizaine de rebonds tranquillement, moi surtout là-dessus. Et en fait, on est juste en train de se rendre compte. Son plancher, c'est ça, quoi. Son plancher, donc son plus faible niveau, c'est un 20-13. 3 passes, 3 contre, des interceptions. Et là, en plus, le mec, il ne s'arrête jamais. Sur le mois de février, sa moyenne de passes décisives est la plus haute qu'elle n'a été cette saison. Donc le gars, en fait, il met ses points, il prend ses rebonds, il met ses contres. Et après, il regarde un peu comment il peut faire jouer ses coéquipiers. Et en fait, moi, je trouve ça incroyable. Et juste, mais attendons que ce mec soit entouré. Ça va être n'importe quoi. Parce que là, pour l'instant, il a des gars... ça a mis du temps à leur rentrer dans le crâne, mais ils ont compris qu'il fallait jouer sur lui. Mais il y a quand même des moments où il est tout seul, où de temps en temps il demande la balle et il l'a pas, parce qu'en fait, il y a des mecs qui veulent se mettre en avant et se faire voir. Après,
c'est une petite connexion avec Sohan quand même qui est en train de se faire.
Mais Sohan,
t'as Vassel de temps en temps qui essaye quand même de garder un peu le lead au niveau du nombre de points marqués, mais voilà, c'est.
Mais il faut un meneur, tu vois. Il faut un meneur daron à côté de lui, tu vois.
Derek, qu'est-ce que tu penses, toi, de la gestion de Popovic par rapport à Victor Wembanyama? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu n'as pas craint un moment en début de saison sa gestion un peu où tu disais, mais où est-ce qu'il veut en venir?
En fait, le nombre de minutes. est en train de monter gentiment. Là, tu vois, contre Minnesota, dernier match, il joue 34 minutes. Donc, ça monte gentiment. Mais dans un sens, j'ai même retourné la question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose pour Pop de le faire jouer 38 minutes par match avec cette équipe de peintres, justement. Quand quasiment tous les quatrièmes cartons, tu les commences avec 20 points de retard.
Ouais. Bah, finalement, non, mais le problème,
c'est une super gestion. Et c'est vrai qu'on a vu divers reportages, le fameux reportage sur Canal, unique, où on le voit travailler à faire des exercices d'assouplissement, parce que c'est vrai qu'il a... Il a un corps que quasiment personne n'a, quoi.
Il a un corps bizarre.
C'est ça, c'est tu sens que c'est flexible, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même ça a été aussi la mission qu'a donné le management à Pop, à mon avis, c'est qu'il faut quand même que ce mec-là, c'est un diamant qui est déjà bien taillé, et là, tu peux en faire le plus grand diamant de l'histoire de ce sport, quoi. En fait, c'est ça que les gens, ils n'arrivent peut-être pas à se rendre compte, c'est que quand tu as des LeBron, des KD, des Giannis, etc., qui, quand ils parlent de Victor, ils ont des étoiles dans les yeux, on parle de mecs qui sont peut-être top 10 de ce sport, all time. Et donc, quand tu parlais d'extraterrestres, on est sur ce niveau-là, quoi.
Ce que je trouve intéressant aussi dans la, je sais pas, vous me direz après, ce que je trouve intéressant aussi dans la gestion de San Antonio et je pense aussi de Greg Popovich, c'était une des questions. Moi, avec mon meilleur ami, on regardait un peu le début de saison. Et la question, c'était, est-ce qu'il doit prendre du muscle ou pas? C'était un peu le côté. Alors,
à peine.
Je vais vous expliquer un peu l'idée. Mais,
il en a pris un peu.
Je trouve qu'en fait, ce qu'il a pris, il l'a pris intelligemment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester. Il ne faut pas que ça devienne, de façon très extrême, une sorte de Zion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça surgonfle. Il ne faut pas, en fait, il faut pas qu'il devienne trop lourd, même par rapport à sa masse squelettique, ses tendons. Il faut. On voit par exemple qu'un Zion, il a beaucoup de problèmes de tendons. C'est quelqu'un qui s'est surdimensionné quelque part d'un point de vue physique. Et sur un poste de pivot, ça saute beaucoup, ça joue beaucoup au niveau des tendons, les ligaments. C'est quelque chose qui, quand même, il y a beaucoup d'impact. Si tu alourdis ça, bah, tu alourdis les chocs au niveau de ces parties corporelles-là. Donc forcément, au bout d'un moment, au niveau d'une carrière, avec la densité... qu'on les matchs de NBA, à un moment donné, ça risque de craquer. Je trouve qu'il a gardé... et en plus, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est physiologiquement bizarre, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais vu, ou on voit très très peu de joueurs aussi grands et aussi filiformes. On a toujours cette impression de lenteur quand tu vois les gestes en fait, de Victor. C'est-à-dire que même quand il court, tu n'as pas l'impression qu'il court vite. Sauf qu'en fait, quand il arrive à... Quand il arrive à écarter ses jambes, tu t'aperçois qu'en fait, il fait trois pas, les autres, ils ont besoin d'en faire six. Donc, ça paraît plus lent, mais il est extrêmement rapide. Et je trouve que du coup, d'un point de vue physique, ils ont réussi à le... Ils arrivent à le conditionner progressivement, en fait, du passage de la Pro A jusqu'à un passage de NBA. Et qu'il ne faut pas non plus faire quelque chose de trop abrupt, en fait, d'un point de vue physiologique. Il faut que ça... Il y a certaines photos là dernièrement où tu le vois en fait très musculeux au niveau des bras. Je trouve qu'il a vraiment pris.
Oui, il a pris au niveau des bras.
Mais c'est pas c'est pas quelque chose. Et comme tu le disais aussi, c'est par rapport à ce qu'on voyait au magazine de Canal+, où je pense qu'il doit toujours travailler cette flexibilité, ces assouplissements justement pour. Oui. Et tu le vois sur les blocs, le travail de bloc, le travail de contre. Moi, c'est quelque chose qui me fait halluciner parce que tu vois quelqu'un très à l'aise pour aller chercher les balles et qui, en plus, maintenant, et c'est ça aussi, je trouve, l'évolution super intéressante au niveau de son travail défensif, c'est que quand il va chercher un rebond ou alors il va taper un contre, il va maintenant essayer de diriger la balle sur un de ses coéquipiers. C'est complètement fou. Tu dis au départ, il faut aller chercher simplement la balle. Tu vas la taper... pour essayer que l'autre n'allait pas. Eh ben lui, il a la capacité mentale et la capacité psychomotrice,
la vision du jeu,
il allait faire une passe à son coéquipier.
Il a la vision du jeu, il comprend tellement bien le jeu qu'il lit l'attaque adverse, et donc derrière c'est assez facile entre guillemets pour lui de prendre, mais surtout c'est qu'il fait des contres sans sauter, donc il se déplace, il tend le bras et paf, hop, tu t'essayes d'aller de... bon bah non, je t'arrête, ou alors j'envoie le ballon sur la planche. Je récupère et j'envoie, quoi. Enfin, c'est sur son triple-double où il fait 10 contres, avec en rajoutant 5 passes, il ne faut quand même pas oublier que ce monsieur fait ça en saison rookie et qu'il n'est que le 5e all-time NBA à faire cette performance. Un triple-double avec 10 contres et ajouté à 5 passes. C'est monstrueux. Avant lui, tu as eu les David Robinson,
et
Hakeem Olajuwon.
Dès qu'il tape hors corps ou qu'il rentre dans une liste fermée, quand tu vois les noms qui est à côté, juste déjà ça, juste quand tu vois les noms qui est à côté. Mais après, franchement, merci les Raptors. Hein. Apparemment, de toute façon, ils avaient oublié qu'ils avaient un mec de 2m24 en face d'eux, c'est bouffon. Bon, au moins, il leur a bien rappelé. Et non, mais franchement, tout ce qu'il fait, genre, moi je trouve ça, en fait, c'est prodigieux. Mais même quand tu le vois en interview, tu vois, tu sens que le mec il est frustré de perdre, clairement. Déjà, tu sens que ça l'énerve, ça le tend, bref, voilà.
Mais en fait, j'aurais une question.
C'est un point justement pour San Antonio, c'est qu'il faudra pas qu'il continue à faire n'importe quoi trop longtemps. Victor est quand même, il sait être patient, mais c'est quelqu'un d'ambitieux.
Ah oui, non, mais c'est quelqu'un de très ambitieux et je pense
qu'il va falloir qu'il soit entouré assez rapidement.
Ouais. J'aurais après une question pour Derek, mais d'abord une question pour Tony. Il y a aussi moi quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Le fait que ça soit quelqu'un qui soit passé par la formation dite à la française, qui ait fait, on va dire, toutes ses classes en France, qui soit passé par la proie, et qui n'ait pas connu, en fait, le système d'université américaine, je trouve que même au niveau de... Enfin, tu parlais de l'intelligence de son jeu, je trouve qu'en fait, il n'a pas forcément la même vision de jeu que peuvent avoir les rookies américains. Alors, moi, étant un peu plus vieux, hein, on peut se le dire, j'avais connu le phénomène Joachim Noah, qui lui était passé justement par le phénomène des universités américaines avant d'arriver au Chicago Bulls. Ouais. Et je trouvais qu'il avait une mentalité, je dis c'est ni bien ni mal, mais c'est une mentalité différente où en fait les joueurs essayent de s'imposer très rapidement et essayent de se valoriser comme vous le dites si bien. Et là je trouve que ce qui est intéressant pour Victor, c'est que déjà il s'est joint en équipe. Et je trouve qu'il y a des fois pour certains rookies américains, c'est pas forcément la chose la plus innée qui soit. Toi, est-ce que tu penses que ça peut être un avantage qu'il soit passé justement par la formation française? Et
je pense que oui, mais tu sais, à même titre que par exemple, ça a pu être un avantage pour Doncic, tu vois, qui fait ses gammes au Real Madrid avant d'arriver en NBA, tu vois. Et en fait, je pense que il y a toujours cet avantage et en fait juste cette différence où en fait ces mecs-là, nos Européens là qu'on a récemment qui viennent rouler sur la NBA et glaner des trophées de MVP aux Américains qui n'ont pas gagné depuis 1000 ans, je pense qu'il y a le fait de juste jouer dans un championnat où en fait tu joues contre des darons, juste des darons qui ont 5, 6, 7, 10, 15 ans de carrière dans les pattes, qui ont de l'expérience, du vice.
Jouer l'Euroleague.
Oui, et jouer aussi les compètes européennes.
Gagner l'Euroleague.
Non, mais c'est pas rien. Lucas Doncic, il est MVP de l'Euroleague. C'est même pas encore légal de boire de l'alcool, limite. Enfin, laisse tomber. Et en fait, il y a ce truc-là, je pense, que du coup, pour Doncic, où là, bon, il y a Real Madrid, tout ça, mais même pour OMB, il commence à Nanterre tranquillement, ensuite il part à l'ASVEL. Et en fait, à l'ASVEL, certes, il joue pas beaucoup, mais il est là, il vit avec le groupe, il gratte des minutes, il a Tony Parker qui est à côté de lui. Moi, je pense que c'est pas rien. Et l'équipe de l'ASVEL de cette année-là, pareil, Il y a du daron dans cette équipe, tu vois, ils ont des choses à lui apprendre. Et en fait, après, quand il part à Boulogne, on lui dit, bah, en fait, la balle, elle va être dans tes mains, ce qui va sûrement être le cas quand tu vas arriver en NBA, donc tiens, fais ta vie. Et derrière, il y a deux, trois mecs bien calés et Vincent Collet, qui est un coach qui a genre, mais énormément de bouteilles quand même, on va pas se mentir. Que ce soit avec l'équipe de France ou dans notre très cher Betclic Elite. Et en fait, moi, je pense que c'est juste tout un ensemble de tout ça. Tu vois, qu'en fait, quand tu passes. C'est pour ça aussi qu'il y a certains mecs qui vont aller s'exiler dans des ligues pour jouer contre des pros. Alors, il y a aussi la motivation de vouloir toucher de l'oseille. On le sait, parce qu'en fait, en université, c'est là, il commence à aller vers un système où peut-être le mec peut avoir un peu d'argent, mais en général, il touche pas un péco. Et en fait.
Officiellement.
Officiellement, bien sûr. Et en fait, derrière, c'est pour ça que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y a des ligues là-bas, etc. Oui. Ben, je crois qu'Alexandre Sarr
et il joue à Perth en Australie.
Alexandre Sarr et en Australie, justement, la Melo Ball était, je sais pas où, je sais plus où autre. Et en fait, du coup, je pense que certes, il y a le côté argent qui parle, mais en fait, il y a quand même ce truc de où tu joues contre des darons, tu joues contre des mecs. Ils sont faits physiquement, ils sont finis. Tu joues pas contre des mecs qui ont ton âge ou qui sont plus petits ou qui ont peut-être un an de plus que toi à peine. Et moi, je pense que clairement, ça fait la différence. Après, bon, le système universitaire américain, il marche aussi. Hein. Il y a des monstres qui en sortent. Hein.
Et en plus, aujourd'hui, ce que fait la NBA, c'est que pour un peu constituer aussi les mock drafts ou ce genre de choses, ils organisent des matchs avec des petits jeunes qui ont été chopés un peu partout dans le monde et les font jouer contre une sélection de la G League Ignite, quoi. Donc, et là, ça leur permet de voir. C'est comme ça que Alexandre Sarr, il a pu se montrer sur les deux matchs qu'il a fait. Le mec, il a claqué des 26, 27 points, 6 contre 10 passes. Ils se sont fait, lui, il n'est pas mauvais. Hein, bon, bah, rendez-vous l'été prochain, Alexandre. Et voilà. Et la même chose, je crois que Wemby, il l'avait fait aussi.
Ouais,
et il avait tué tout le monde là-bas. Quoi.
Il met 37 points à chaque match.
Voilà.
À Vegas, en plus. Mais t'imagines, en plus, c'est à Vegas.
Mais c'était avant sa saison de Valois.
Oui.
C'était la saison à Levallois, où l'équipe de Levallois avait genre coupé son championnat pour partir une semaine à Vegas. Ils ont joué contre une équipe de G-Elite Ignite, là, je sais pas quoi, il y avait Scoot Anderson. Et en vrai, le mec, enfin, il y avait LeBron et Anthony Davis au premier rang, il y avait des stars dans tous les sens. Les mecs sont allés jusqu'à acheter les droits des Boulogne Metropolitans pour les diffuser aux États-Unis.
T'avais les pubs Leclerc sur les parquets.
Mais c'est,
ça leur piquer les yeux quand même aux Américains.
Mais t'imagines en fait à quel point ce mec il est en train de révolutionner en fait ce sport, dans le sens où les mecs genre, enfin, il y a quand même, on a quand même toujours ces enfoirés d'insiders américains qui sont toujours là en mode genre Luka Doncic sur ses prêts. Il y a quand même des mecs qui sont là à douter de son talent quand il arrive en NBA. Ça n'a aucun sens. Et Wemby, il y a eu une hype tellement incroyable qu'en fait, on attend de voir, ouais, moi, quand il va venir sur le terrain, t'inquiète pas, je l'attendrai, mais tais-toi, il te met un 22-13, tu vas gagner ton match, mais tu ne vas rien faire en fait face à lui. Moi, je pense que ce mec, clairement, on est sur un joyau. Nicolas Batum, il le disait lundi, là, ce mec, déjà, il va banaliser le 5x5, clairement, il va le banaliser, mais alors avec un grand B. Et franchement,
on attend juste le
quadruple double.
Le quadruple double, on se dit pas est-ce qu'il va le faire. C'est plutôt quand est-ce.
Est-ce qu'il le fait avant la fin de sa saison rookie, ou est-ce que peut-être à la saison prochaine, tu vois, avec un effectif un peu plus solide, tu vois, parce que les 10 passes en fait, il faut qu'il réussisse à les faire, le pauvre. Hein, franchement, ça va être dur. Hein.
Et high score en carrière, il a déjà fait les 10 passes. En fait, il a déjà fait le double dans toutes les catégories, sauf les interceptions, parce qu'il y a finalement il y a que 5 catégories où tu peux faire des doubles. Et d'ailleurs, dans les quadruples doubles, la majorité des quadruples qui ont été faits, c'est avec 10 interceptions et pas 10 contre. Donc
je savais pas, moi, tiens.
Ouais, quand tu regardes finalement les stats, sur Twitter, t'avais un gars qui avait lâché toutes les stats et il avait fait tout un travail de recherche. Faudra que je donne son nom parce que vu le taf fait, à mon avis,
autant lui attribuer.
Et en fait, en majorité de personnes, c'est des gens qui ont fait des 10 interceptions, quoi.
Alors,
avec bien sûr les 10 passes et les points.
Et alors, question aussi, moi, que je trouve intéressante, que j'avais entendue au niveau de Trash Talk, hein, rendons à César ce qui appartient à César. Alors, ce que je trouve intéressant d'Eric, c'est qu'il disait que Victor serait peut-être pas forcément très patient au niveau de tanker encore une saison comme ça. Est-ce qu'il va y avoir pas mal de free agents apparemment à la fin de cette saison? Les Spurs vont avoir quand même un gros cap space de vraies possibilités de signature de joueurs. Est-ce que ce qui serait intéressant pour les Spurs, c'est pas forcément d'aller choper des grosses stars, mais d'avoir des joueurs moyens plus, en fait. Et je me dis, une équipe bonne, mais pas forcément excellente, mais bonne avec Victor, ça peut déjà partir à la course au playoff, quoi. C'est-à-dire que.
Bien sûr.
Et en plus, des joueurs intelligents peuvent se dire, on va signer avec Victor. Même si je suis pas forcément le meilleur meneur, je suis pas la Steph Curry, de pouvoir signer aux Spurs, je vais me gaver, mais comme un petit salaud, quoi.
Non, mais bien sûr. Non, mais c'est en fait, c'est aussi simple que ça. Là, le chantier qui attend les Spurs pour qui va commencer dès l'été prochain et sur lequel ils vont devoir avancer très vite. Déjà, c'est juste en fait quand tu regardes l'équipe, je pense déjà c'est ajouter un vétéran parce qu'il y a pas un daron dans cette équipe déjà pour commencer. Il y a des mecs qui sont peut-être pas compatibles avec le système de jeu qu'ils veulent prendre. Je sais que ça parle beaucoup de Keldon Johnson, etc., qui est vraiment un bon scoreur, un bon joueur, etc. Mais je pense que avec une équipe qui tourne autour de Wemby, peut-être que San Antonio n'est pas le bon endroit pour lui. Donc à voir en fait si tu as pas le shop et voir ce que en fait qu'est-ce qu'on peut te donner en échange. Mais je pense surtout, on a vu la différence déjà quand ils ont mis Trey Jones à côté de lui. Donc Trey Jones qui est un bon joueur, hein, mais juste c'est pas le mec le plus expérimenté du monde. Et en fait, on a vu la différence juste déjà quand tu mets un bon meneur à côté de lui. Donc, je pense déjà, moi, ce qu'il faut, ce serait un meneur vétéran. Bah, tiens donc, Trey Jones, c'est un frère qui est pas si mauvais que ça au basket, d'ailleurs, en passant. qui aurait le profil parfait pour jouer à côté de Wemby. En plus, c'est un mec tellement propre. Tyus Jones qui perd pas de balle, etc. Donc, tu vois, c'est une idée comme ça. Après, je sais même pas s'il a Jean Libro, tu vois, même avec un trade. Mais en fait, genre, il y a cet avantage-là. Il y a l'avantage San Antonio, grosse franchise, histoire incroyable et tout. Et en fait, il y a lui. Les gens vont moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont se bousculer pour jouer avec lui. J'y crois vraiment parce que c'est tellement, on parle extraterrestre, ça, c'est un ovni, le mec. Et je pense vraiment qu'en fait, on va se bousculer pour jouer avec lui. Donc, ça commencera dès avril, là, dès que la saison, elle est finie, là, le 16, le 17. Je sais pas c'est qui le directeur des opérations ou le manager ou etc., enfin, le GM ou un truc comme ça, mais il faut vraiment qu'il taffe parce que, juste déjà en faisant des bons ajustements, je parle même pas de construire une équipe contender, hein, ça prend du temps, hein, ça va prendre plusieurs saisons, mais juste déjà de construire très tranquillement avec des ajouts intelligents une équipe autour de lui, j'ai envie de croire que dès la saison prochaine, ils peuvent être dans la course au play-in et potentiellement arracher une place au play-in. Moi, j'y crois vraiment parce que il y a pas de plafond avec ce mec.
Mais quand tu te rends compte qu'au niveau du roadster, ben justement, ouais, c'est Keldon Johnson qui gagne le plus et il est à 20 millions la saison.
Après, il y a Devin Vassell qui va taper un gros contrat l'année prochaine. T'inquiète pas, il va régler ce problème très vite. Hein.
Ouais, mais il est à 29 l'année
200,
prochaine.
205 sur 5 ans, je ne sais plus ouais. Combien. Il est
donc, même lui, si ça deviendrait le plus haut salaire, et dans la NBA actuelle, ton plus haut salaire, tu es à moins de 30 millions la saison.
T'as de la place dans ton cap encore.
Juste un gros lol, en fait. Hein.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a vraiment de la place. Là, je crois qu'au niveau des picks de draft, ils en ont deux dans le top 10. Donc, ils peuvent faire déjà des bons ajouts. S'ils ont encore de la chance, tu pourrais, imagine, tu associes un Alexandre Sarr à Wemby. Ça fait quand même un petit front de cours qui est pas dégueulasse hein, sur poste 4, poste 5. Mais comme tu l'as dit, il faut un meneur, quelqu'un qui sache bien distribuer la balle et qui lui offre des caviars. Parce que c'est quelqu'un, si tu mets la balle au poste à Wemby, il peut tourner à 75%, sauf s'il s'écarte un peu trop pour aller te shooter à 3 points. ce que lui reproche un peu Pop actuellement, et c'est un gros axe de, d'amélioration, parce qu'il est, il est à moins de 32% de réussite.
Non, il doit bien s'exprimer sur 3 points. Ouais.
Mais voilà, donc quand tu vois qu'à, pareil, hein, quand tu vois en comparaison de Rudy, où, qui est pas terrible au lancer franc, et encore il s'est amélioré, Wemby il tourne à 82% au lancer franc, quoi. Donc mais c'est quelqu'un en plus qui a un super shoot. Mais il a ça à progresser, mais
c'est ça que
comme Dirk Nowitzki avant lui, par exemple, hein, qui s'est fabriqué son shoot pendant sa carrière.
Mais c'est ça aussi qui est très très impressionnant, je trouve, de la part de Wembanyama, c'est-à-dire que il fait des choses extraordinaires et on sent qu'il n'a pas encore atteint son plafond de verre.
Il est loin.
C'est-à-dire qu'il nous fait déjà des choses totalement folles. Et il a encore, comme vous le dites, c'est-à-dire des ajouts d'équipe, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'un meneur qui tient la route va lui ouvrir des possibilités encore autres au niveau de son jeu, au niveau de ses possibilités, de son dunk diagonal. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur faire un dunk comme ça? C'est-à-dire se dire, je suis loin de l'arceau. Ouais, je vais pas trop sauter, donc je vais sauter en diagonale et il dunk sur la tête des joueurs.
C'est l'avantage de faire
2m24 avec ses bras surdimensionnés. Et je trouve qu'encore il a comme vous dites, c'est-à-dire que ses choix de tir à 3 points, certaines choses, ouais, qui sont encore à repeaufiner. Et tu te dis où est-ce qu'il va s'arrêter?
Ouais, il perd encore un peu, il y a un peu de perte de balle aussi, tu vois. Il est à 4,3 par match. Mais
il la prend beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à côté de lui.
Parce qu'il n'y a personne à côté de lui pour tenir la balle.
Et que du coup, comme le dit Tony, c'est-à-dire que dès qu'il prend la balle, il a une trop grosse responsabilité. Et c'est encore un très jeune joueur.
Ah non, il est à 3,5, pardon.
Il a dû arranger un peu, mais après, je pense qu'il y a aussi ce problème où il a trop la balle en main, mais parce qu'en fait, il n'a pas trop le choix. Mais on parlait de faire des ajouts, je vous laisse deviner qui c'est qui a agent libre l'année prochaine, j'en parlais il y a 2 minutes.
c'est ce qu'il faudrait.
Je pense que c'est le profil parfait, ce mec-là. Tyus Jones aux Spurs pour tenir la balle à côté de Wemby. En plus, c'est pas un mec qui prend énormément de sauts et Dieu sait qu'ils en ont des sauts à donner. Donc, moi, je suis San Antonio, je fonce dessus. En plus, il range son frein à Washington, le pauvre, il est au bout de sa vie.
Parce que y aurait qui, à part ça, en meneur, qui serait agent libre ou alors avec un contrat expirant
Si tu veux, j'ai une liste d'agents libres, moi. J'ai du Kyle Lowry, c'est un peu vieux.
Bon.
Ce qui est quand même un peu vieux, Kyle Lowry, mais bon, voilà. Est-ce que c'est pour 2024? C'est que je ne dis pas de la merde. Il y a Tyus Jones. Apparemment, Montemori, c'est dans sa dernière année, tu vois. Et sinon, après, en vrai, je ne vais pas te les énoncer. Il n'y a rien d'intéressant. Patrick Beverley, on s'en fout.
Non.
voilà. Il y a Delon Wright, je pense. Je ne sais pas. Il sait tenir la balle, tu vois, après, c'est pas vraiment. Je sais pas. Mais je pense vraiment que Tyus Jones, pour moi, c'est vraiment le meilleur profil.
Parce que tu vois, tu prends une équipe comme les Lakers qui a besoin de faire de la place, un D'Angelo Russell à aller chercher, qui a des contrats un petit peu gros, qui sait distribuer comme ça.
Bah, il est pas si gros que ça, son contrat. Donc, il est en termes de. S'il faut trader, tu vois, pourquoi pas. Mais en fait, tu donnes quoi aux Lakers en échange?
Il libère juste de la place au niveau de l'argent. Si LeBron reprend un chèque un peu gros,
c'est vrai. Ouais.
Dans un sens, les mecs, faut qu'ils fassent un peu, il faut de la place aussi, hein, parce que.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais pas. Écoute, ce n'est que spéculation, on verra.
Et justement, est-ce que juste une dernière question sur Victor, mais on pourrait y passer 3 heures.
C'est clair.
Tant on peut dire qu'on est admiratif de son jeu. Est-ce que vous pensez que il est suffisamment vu à sa juste valeur en France? Parce que quand on voit, en fait, il y a des fois des choses. J'ai vu une image avec Tchèque, le grand Tchèque quand même, qui quand même a un gros boulard en termes. Et en fait, il a regardé. Comme un enfant regarde un adulte. Est-ce que vous avez vu là quand il est passé sur un plateau télé Et même Shaquille O'Neal a levé la tête pour voir Victor Wembanyama. Et il faisait petit. Shaquille O'Neal faisait petit.
Bah ouais, ouais.
Ce que vous entendez, mais pas. Mais du coup, parce qu'on a là. Enfin, c'est bête qu'on ait. On va peut-être s'enquérir d'un Américain au sein de l'équipe et on pourra peut-être leur demander la prochaine fois, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est quand même une sorte de phénomène extraordinaire et que nous, en France, en fait, on va pas dire qu'on sous-évalue, mais...
Moi, j'ai un avis sur la question.
Allez, vas-y, donne-nous ton
avis. Moi, c'est juste que je vais d'abord aller dans les bons côtés. Moi, j'ai des potes, là, justement, tu vois, cette saison, qui se sont mis à la NBA parce que Victor. Donc, les gens sont curieux. On a vu comment les stars qui sont allés voir les matchs de Boulogne Métropolitain l'année dernière, qui sont venus jusqu'à Paris pour regarder les matchs, pour le voir jouer, etc. Alors que ces mecs-là, on les voit qu'en courtside au Madison Square Garden ou à la Crypto.com Arena, etc. Donc, je pense que il est considéré, etc. Mais je vais sûrement après pour l'autre côté, je vais sûrement en mettre une couche plus tard quand on parlera des autres Français. Moi, j'ai l'impression qu'en général, franchement, on les soutient pas tant que ça, nos joueurs. Ouais. Parce que même j'ai l'impression, tu vois, moi par exemple, tu vois, là, je te parle même d'un autre gars, genre Rudy. Je le vois beaucoup trop se faire mais chier dessus par moment. Désolé pour le mot, mais alors que ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi il y a pas plus de soutien que ça. Et moi, j'espère justement que Victor, il va réussir à péter ce truc-là, en fait, et que maintenant, que ce soit lui ou ceux qui viendront après, bah, ils pourront bénéficier, en fait, de tout soutien outre-Atlantique. Moi, j'aimerais trop qu'on ait un équivalent de, à l'époque où Zaza Pachulia, il a failli être starter All-Star parce que toute la Géorgie était derrière lui. Mais moi, j'aimerais trop qu'on envoie un mec, pas qu'il n'y a pas le niveau, tu vois, mais genre, je sais pas, qu'il joue dans une bonne équipe, en fait, avec une grosse fanbase et qui.
L'impression que. Alors, attention, je sais que comparaison n'est pas raison, et je ne compare pas ces deux joueurs-là, ces deux sportifs-là, mais j'ai l'impression que Victor prend un peu le train qu'avait pu tracer au départ Kylian Mbappé. On peut dire ce qu'on veut de ces sportifs. Moi, j'ai un fils de 9 ans, Kylian Mbappé. Il a eu, au niveau des enfants, au niveau de la jeune génération, il a eu une sorte de sympathie énorme. Et j'ai un peu l'impression que Victor, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont sympathiques, qui renvoient une bonne image du sportif et de leur sport. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui est plutôt intéressant quand tu l'entends parler. Et c'est quelqu'un, alors il y a des fois, c'est souvent décrié, mais c'est quelqu'un aussi de positif au niveau de ton image. Et c'est aussi important, tu vois. Et du coup, comme tu dis, effectivement, au loin des yeux, loin du cœur, la NBA, c'est quand même quelque part.
C'est aussi ça le problème, tu vois.
Les matchs sont pas à des heures faciles pour nous.
Mbappé, il est en France depuis bientôt 10 ans qu'il est pro, il a joué avec l'équipe de France, etc. Tout ça, tu vois. Parce que lui n'a pas.
On l'a à Paris. On l'a à Paris.
Pour longtemps, mais ouais.
Oui, mais même au pire, il part à Madrid.
Niveau fuseau horaire, tu vois, il est. Déjà, rien que ça, tu vois. Et le truc, c'est que Wemby n'a pas joué avec l'équipe de France. Ouais, ils ne sont pas sur les mêmes sports et Wembanyama n'a pas joué encore avec l'équipe de France, tu vois. Mbappé, il fait ses premières gammes sur la Coupe du Monde, il roule sur tout le monde et en plus on gagne, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Après, s'il fait un équivalent au JO, nickel.
Et puis il y a on peut dire ce qu'on veut de ces joueurs-là d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue sympathie, d'un point de vue foot, moi je te dis, lui et Kylian a réussi à prendre une sympathie aux environs des jeunes extraordinaires. Et je trouve que Victor, c'est un peu ça. Il faut que ça puisse se continuer. Alors là, le fait qu'il soit aux États-Unis, il faudrait que les journalistes puissent un peu plus, tu vois, relayer sa carrière, ce qui fait quelque part qu'il y a une sorte de storytelling qui puisse se faire. Ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Derek.
Moi, c'est surtout qu'il y a une très grosse dichotomie entre les suiveurs basket, chez qui Wemby fait l'unanimité et tout le monde reconnaît son talent. Je pense, à part citer un Américain aigri,
du fin fond du Kansas,
et que ton joueur préféré c'est Chet Holmgren.
Et non, ton joueur préféré c'est Donald Trump. Plutôt.
Non, même pas, c'est que tu es un petit peu américain et que tu veux préfères que Chet soit Rookie of the Year qu'un petit Français. Mais je pense qu'il fait l'unanimité chez tous les suiveurs de basket partout dans le monde. Et après, tu as le Pékin lambda qui, un, ne suit pas le basket, parce que c'est vrai que la Betclic Elite... En plus, ils se sont enfermés sur une chaîne privée ce week, histoire qu'on voit encore moins les matchs. Je crois que tu dois avoir quelques petits matchs par-ci par-là sur la chaîne équipe. Merci à eux de diffuser un match par semaine. Mais bon, finalement, à part diffuser l'ASVEL et Monaco, si tu veux essayer de voir une autre équipe, c'est raté.
Les Lanchalons qui est derrière moi. Dommage.
Donc c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué. Mais après, pour le grand public, déjà c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une ligue américaine, donc c'est loin et on s'intéresse pas aux ligues américaines. Mais après, c'est l'intérêt du français vis-à-vis du sport de manière globale. On a quelque chose d'extraordinaire. Quand Tony Parker gagnait des titres avec les San Antonio Spurs, ça faisait pas les méga titres des JT. Hein. Les gens s'en foutaient totalement. Et je pense que là, il y a un petit éveil quand même, parce que c'est quand même particulier. T'as aussi toute la famille, on l'a vu, qui a été pas mal mis en avant aussi dans le documentaire unique de Canal, où on voit le père, la mère, on voit qu'il est super bien entouré. T'as le frère qui essaye de faire un peu de basket, mais... un peu comme Ethan Mbappé, à mon avis, ça va être difficile pour lui d'exister après son frère. T'as sa sœur qui fait aussi du sport, mais je crois pas qu'elle soit dans le basket.
C'est plus de l'athlétisme, il me semble.
Voilà, elle fait autre chose. Mais tu sens que c'est une famille qui a les pieds sur terre, où tu sens qu'il y a de l'intelligence, quoi. Enfin, c'est pas certaines familles de nos footballeurs où tu sens que c'est surtout l'appât du gain qui commande tout le monde. Là, tu sens qu'il y a vraiment un projet de carrière et qu'ils savent, tout le monde sait que c'est un génie et qu'il y a moyen qu'il révolutionne la NBA, comme à l'époque où on a pu changer les règles pour Will Chamberlain, quoi. Donc, je pense qu'il peut être tellement dominant que ça peut changer le game, quoi. Bon, après, nul n'est prophète en son pays, et en France, en plus, on aime bien désinguer les idoles, donc ça, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi cet aspect sportif, c'est que le Pékin moyen, il s'en fout du sport. Il y a les JO dans quelques mois. Et d'ailleurs, si j'espère qu'il participera, normalement, c'est couru d'avance, mais on touche du bois qu'il n'y ait pas de blessure, mais peut-être que les gens vont le découvrir en clair, en
les gens vont le découvrir
avec l'équipe de France, où tu vas avoir une petite doublette Rudy Gobert ou Wembanyama en front de court, avec un Nicolas Batum sur l'aile, un Evan Fournier et peut-être un
Andrew
Thomas
Albici.
Un Thomas Hurtel en meneur.
Ouais, j'aimerais bien. Putain.
Purée, cette équipe de France, elle a déjà de la gueule, quoi. Enfin, moi, j'ai.
On n'a pas parlé du banc encore.
Moi, j'ai le kiki tout du temps.
Bilal Koulibaly en sixième homme, ça peut être.
Voilà.
Non, mais franchement, on peut avoir une belle équipe là pour les JO.
Envoyez-nous du LeBron, du KD, etc. On va en faire du petit bois.
Quoi. Et quand ils vont arriver à Lille, ils vont rentrer.
Une passe décisive de Derrick, parce qu'on voulait un peu aborder dans cette dernière partie les autres Français en NBA. Alors, il me semble que Tony voulait parler d'un de nos Français.
Moi, je vais parler
autre que Victor, parce que Victor, ouais, en a déjà parlé.
Allez, vas-y. Je vais parler d'un Français qui est en prison depuis 2 ans.
C'est clair.
Alors, être en prison à New York, c'est sympa, hein, pas se mentir, hein, c'est une belle ville. Mais en vrai, blague à part, je pense qu'après, on est content que Evan Fournier puisse enfin refouler les parquets, même si c'est chez les Pistons. Je vois, quand il a été tradé, j'étais acheté à destination, il a vraiment claqué, mais bon, au moins, il va sûrement pouvoir refouler les parquets un peu, et ça a été le cas. Bon, hier, il a joué que 6 minutes hier, mais sinon, en général, ça va, il arrive à choper ça a sa vingtaine de minutes ou pas loin. Et en fait, il est toujours là à enfiler ses filoches. En général, ça a l'air d'aller. Après, c'est vrai que j'avais vu passer des avis, moi, sur Twitter, qui disaient que le mec, il était cramé. Franchement, ça n'a mais aucun sens. Enfin, le gars a 31 ans et pour moi, en plus, il a l'air plus affûté que jamais. Et en plus, j'avais vu passer le podcast de Josh Hart qui avait Jalen Brunson en invité. Et ils avaient justement parlé d'Evan Fournier qui, en fait, apparemment, malgré le fait qu'il jouait pas depuis 2 ans, était celui qui arrivait le premier, qui repartait le dernier à l'entraînement et qui était tout le temps en train de bosser. Au point que Tom Thibodeau se plaignait du fait qu'Evan Fournier prenait trop de place à l'entraînement. Bon, déjà, ça en dit long sur cet enfoiré, mais bon, tranquille. Et en fait, derrière, le mec, il a pas joué depuis 2 ans. Moi, je pense qu'il a beau s'entraîner comme un malade, se garder en forme, etc., tout ce qu'il veut. Le mec a à peine ou très peu goûté au basket de haut niveau depuis 2 ans. Ça va prendre du temps là pour qu'il se remette en rythme. Donc, restons patients avec Evan. Arrêtons de toujours être contre nos Français qui, en plus, préparent une énorme échéance. Et moi, clairement, Evan Fournier, dans le groupe pour Paris 2024, bah, je le veux. Il aurait pu faire toute sa saison à New York ou pas. Moi, je le veux dans cette équipe parce que c'est un profil comme on n'en a pas. C'est une grande gueule. C'est un mec qui lâche jamais rien. Moi, je l'adore. Et franchement, j'aimerais juste en fait qu'on soit un peu derrière nos gars, quoi.
Bah, surtout Evan Fournier. Dernière Coupe du Monde de basket. Heureusement qu'Evan, il est là. Hein.
C'est ça. Sinon, déjà qu'on est dramatique. S'il n'est pas là, on est 3 fois plus dramatique. Enfin, genre même. Moi, je sais que je me souviens quand on avait fait un podcast après l'Euro. On était mitigés après son tournoi. On fait une médaille d'argent, c'est improbable. On n'est pas censé avoir l'équipe pour, etc. Mais je me souviens, moi, je sais que j'étais même mitigé après son tournoi parce que c'était un peu bizarre. Mais en fait, il a tellement eu de responsabilités sur le dos avec les absents qu'il y avait. Et en fait, c'est un mec. En plus, même son histoire avec l'équipe de France, ça a été un peu bizarre au début. Alors que maintenant, il rate plus un été. Et le mec, il se bute pour ce maillot. Et pour moi, c'est un grand professionnel de NBA qui a largement sa place encore et qui, moi, je sais pas si c'est une team option là, son contrat. J'espère vraiment ils vont pas la prendre, les Pistons, qu'il aille se retrouver sur le marché et qu'il aille en sortie de banc dans une équipe qui joue quelque chose, parce que pour moi, en plus, il a dit lui-même, il a 31 ans, il est dans ses meilleures années, il a tellement de services à rendre encore en NBA, que ce soit juste en termes de scoring pur, parce qu'on sait qu'en défense c'est pas ça, mais moi je les mecs qui enterraient ce mec juste parce qu'ils l'ont vu jouer 5 matchs alors qu'il a pas enchaîné 5 matchs depuis 2 ans, enfin, en vrai, vous êtes des basket X, quoi, faut arrêter. Voilà.
mon petit Derek, tu voulais parler de quel Français ?
Moi, c'est le joueur français le plus, peut-être le plus sous-coté, surtout côté américain, parce que il n'est absolument pas lui. Mais c'est Monsieur Rudy Dipoy Gobert, parce que je vois pas qui peut venir l'embêter pour la récompense. Ouais,
c'est du délit de sale gueule, hein, si on la donne à quelqu'un d'autre. En vrai.
Si Minnesota, il y a Anthony Edwards, bien sûr, mais le deuxième joueur important, c'est pas Karl Anthony Towns.
N'en déplaise aux gens qui l'ont envoyé au All-Star.
C'est Rudy Gobert. Hein. Il fait encore une saison. Ça, bien sûr, il y a du point, mais pas plus que ça, parce qu'il est à 13-6 sur la saison. Mais c'est quelqu'un qui a 12,6. Donc, quand tu tournes à du double-double de moyenne sur la saison en 33 minutes, le mec, 57 matchs, 57 fois starter. Donc, en plus, il a joué tous les matchs. Lui, le load management, il sait pas ce que c'est, quoi. Il se bat tout le temps. Et
il est dans la meilleure forme de sa vie. Hein.
Donc, c'est... Voilà,
je trouve qu'en plus, avec un effectif qui n'est pas forcément des plus complémentaires qu'il soit.
Moi, je trouve qu'il est hyper bien construit, tu vois, justement. En fait, il y a eu les petits ajouts qu'ils ont fait en milieu de... Là, les Mike Conley et des mecs qui ont pété d'un coup, là, les Nas Reed, les Jaden McDaniels, je me confonds toujours entre les deux. Il y a ces mecs-là, à droite, à gauche, qu'ils ont rajouté et qui ont... qui avaient un potentiel et qui l'ont pété comme il faut, je pense. Et en fait, l'équipe est bien coachée par Chris Finch. Anthony Edwards a pris les rênes parce que Karl-Anthony Towns n'a jamais eu les épaules pour.
Non.
Et en vrai, de toute façon, le truc, c'est que même là, si le projet ça marche pas, que ça c'est pour l'Ampléoff, Carl Anthony Towns sera sûrement tradé pour aller récupérer d'autres mecs. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on a un Français qui va, et après je redonne la parole à Derek parce qu'on a coupé, mais en fait, il y a un Français qui va être défenseur de l'année pour la 4e fois dans sa carrière. Mmh. Les mecs qui ont fait ça, est-ce qu'il y a, quoi? Il y a Ben Wallace, je crois. Ben Wallace ou Dwight Howard, c'est un des deux, je confonds. Et Dikembe Mutombo, je crois.
Ouais. Peut-être du Alonzo Mourning qui doit traîner aussi, mais encore, je suis même pas sûr.
En fait, je trouve ça, moi, complètement fou que ce mec est en train de faire une carrière exemplaire, en tout cas dans son rôle de défenseur de l'année et de pivot défenseur, etc. Et je sais pas, on lui chie dessus.
Parce qu'il stretch pas à 3 points, parce que tu vois, c'est pas du limite dans les gens, tu leur demandes Brook Lopez ou Rudy Gobert, les gens vont dire Brook Lopez parce qu'il met des shoots à 3 points, quoi. Alors que à un moment, je pense que pour gagner un championnat, je préfère avoir Rudy dans mon équipe.
C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est pas spectaculaire, mais ça reste très efficace et ça reste quelqu'un sur qui va t'assurer les bases arrières d'une équipe, les bases défensives et qui va te faire véritablement gagner les matchs, mais pas de façon très spectaculaire.
Ouais. Non, mais moi je rajouterais aussi un truc sur. Moi je me souviens de comment Anthony Edwards parlait de lui quand il était encore à Utah, juste avant qu'il débarque à Minnesota. Je me souviens que Anthony Edwards, dans la presse, il le trash talkait, était là, genre, moi je vais lui mettre la misère, ce mec je l'aime pas, etc. Tout ça. Est-ce que vous êtes tombé sur les interviews d'Anthony Edwards maintenant?
Non.
Comment il parle de Rudy Gobert? Ils ont bossé ensemble cet été, etc. Enfin, le mec, maintenant, je sais pas, c'est son coéquipier préféré, sûrement pas, mais en tout cas, les mecs, maintenant, ils ont une relation, ils s'entendent bien. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi de l'autre côté de l'Atlantique, enfin, les mecs ne. Il y a eu son histoire avec le Covid, etc., qui est vraiment. C'est un pas doué d'avoir fait ça, mais bon, tranquille, je pense qu'il s'est racheté et c'est passé. Mais enfin, même pareil, moi, l'acharnement des Draymond Green dessus, bon, après Draymond Green, moi, vous le savez, on va pas partir là-dessus, mais voilà. Et en plus, il joue bien, là, donc voilà, je vais pas non plus jeter la pierre, mais enfin, par rapport à Rudy Gobert, je ne comprends pas. Et en plus, l'acharnement du Shaq qui a juste le seum que Rudy Gobert gagne autant dosé, mais en fait, bah, t'avais qu'à être né plus tard et jouer maintenant. T'aurais pris un contrat encore plus faramineux que lui, mon pote. Mais c'est la loi de la jungle, en fait. C'est comme ça que ça marche.
Et tu vois, et encore, je sais même pas si aujourd'hui, Shaq, il serait valorisé.
Oh, si.
Franchement, j'en sais rien. Il y avait ce côté domination, mais aujourd'hui, après, on reprocherait à Shaq de ne pas shooter à 3 points. D'être un espèce de monolithe sous mais le panier.
Il serait quand même en 28-17. Hein.
Ouais, mais franchement, à voir. Avec les freaks aujourd'hui, il ne prendrait pas autant de rebonds, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a aussi
il y avait une... Il y avait quand même des gars dans la raquette à son époque.
Il y a une évolution, rien qu'au niveau des shoots, vu que tu tires de plus loin. On va faire de la physique de bas étage, mais si tu tires de plus loin, tu mets plus d'énergie dans la balle, et quand elle retombe sur l'arceau, etc., et ben le ballon, il rebondit plus loin. Donc, tous les mecs qui cueillaient les rebonds juste en dessous l'arceau, c'est des rebonds qu'ils ne récupèrent plus. Et c'est aussi pour ça que les ailiers forts, même les petits, récupèrent de plus en plus de rebonds. Ouais. Donc les Russell Westbrook, etc., qui récupéraient qui ont pu faire des saisons en triple double, parce que tu avais aussi plus de facilité à récupérer des rebonds, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc il aurait forcément déjà beaucoup moins de rebonds. Donc je sais pas si aujourd'hui, je pense que il a bien fait de jouer dans la période où il a joué Shaq. Aujourd'hui, ça serait plus compliqué pour lui. Ça serait pour moi un Zion Williamson.
On va se faire insulter. Ouais,
ça serait un Zion un peu plus, parce que bien sûr, il est plus grand, etc. Mais dans cette ligue où c'est une ligue déliée, je ne suis pas forcément sûr qu'il. Ouais, encore. Et là, ça va. Au moins, il a eu son maillot retiré enfin du côté du Magic.
Ouais, non, mais il y a des franchises, il faut qu'elles se bougent. Hein. Les Raptors, on attend encore Vince Carter. Hein.
Ouais.
Bref.
Bon,
et toi, mon cher Ricard.
Eh ben moi, je voulais parler de Bilal Koulibaly parce que on a un All-Star rookie avec Victor, mais on en a aussi un deuxième avec Bilal. On va y aller rapidement, mais ce qu'il est en train de faire au Wizard, c'est aussi complètement dingo. Sans équipe, il a réussi à prendre la place de Jordan Poole. Bon, je dirais qu'une poule pourrait prendre la, poule, ouais. La place de Jordan Poole, justement. Donc, c'est le seul joueur déclaré intransférable des Wizards. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a un profil plus normal, pourrait-on dire, pour le basket NBA. Mais je trouve que c'est pareil. Il y a une intelligence de jeu, un QI basket et une certaine forme de technicité qui, pour son jeune âge, me laisse. Je me dis, le problème de Bilal, c'est qu'il est tombé en même temps que Victor. Si il y avait eu un décalage. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait eu un décalage d'un an avec Victor Wembanyama, je pense qu'il aurait pu. Il aurait peut-être une autre aura. Enfin, il pourrait peut-être avoir une. D'un point de vue français, hein, on ne va pas parler. Mais je trouve que c'est pareil, c'est un joueur. Ça peut être un joueur extraordinaire. On ne va pas vous souhaiter la guigne, hein, tout ça, mais. J'attends beaucoup de ce jeune-là et on va voir un peu ce qui va se passer aux Wizards et comment ils vont se structurer, savoir s'ils vont peut-être le lâcher aussi au bout d'un moment parce que s'ils arrivent à rien en faire, bon voilà. Enfin, si c'est toujours un peu le problème des reconstructions, savoir comment elles se gèrent, combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour faire la reconstruction. C'est toujours des choses qui sont hautement hypothétique, mais j'attends de voir en fait de Bilal Koulibaly dans les prochaines années pour. Je pense que ça peut être aussi un joueur qui peut être super beau à voir jouer. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux.
Non, moi je suis d'accord. Après j'ai plus ce truc de tant mieux que soit arrivé en même temps qu'Embi, comme ça en fait les gens font pas attention à lui, tu vois. Ouais. Et il fait son truc très tranquillement parce que il a quand même pété le plafond. Quand il s'est fait drafter, parce qu'il n'était pas attendu à se faire drafter aussi.
Non, septième.
C'était pas prévu, tu vois. Et en fait, au final, le mec, d'abord, on se dit, bon, ça va être un 2ND++, tout ça, etc. Et en fait, tu te rends compte, au bout du milieu de saison, que ce mec-là, il ne faut absolument pas le ranger dans une case parce que son potentiel, en fait, on ne le connaît pas encore.
C'est ça.
Il a un range. Et en fait, faut voir si les Wizards vont réussir à l'emmener vers ce niveau-là, vers ce plafond en fait qu'il peut potentiellement atteindre. Mais il a genre son plafond, il est vraiment inconnu. Et mais le peu qu'on a vu laisse présager de belles choses en fait. Donc moi, j'ai trop hâte de voir la suite pour lui. J'espère juste qu'ils vont pas faire de la merde. Tu vois, s'ils font de la merde, en vrai, limite qu'ils le traitent, ça m'arrangerait qu'il est dans une franchise plus stable.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
Voilà, j'espère déjà qu'il sera à Paris là, pour les JO, parce que je pense qu'il a un profil qui a clairement une carte à jouer.
Quand tu vois, comme tu disais, on a un 5 majeur monstrueux,
mais le banc est pas mal en vrai, les mecs sur le banc.
T'incorpores des joueurs comme lui aussi sur le banc, ouais. Ça peut faire très très mal. Hein. Ça peut faire très très mal. Hein.
On verra bien.
On peut regarder les USA dans le blanc des yeux. Hein. C'est pas. Je sais pas ce que
ça dépend. Hein. Si c'est vraiment l'équipe dont il parle là, quand tu
commences. Va falloir faire le match de sa vie. Hein.
Si sur le terrain, tu commences à. Si Embiid est remis, donc tu as Embiid en centre, donc en pivot, que tu vas avoir KD en ailier fort.
LeBron, avec Jrue Holiday, c'est avec Jrue Holiday en pointe là, comme ça ils font jouer Curry en deux.
Stephen Curry sur le backcourt et tu me rajoutes n'importe lequel à côté parce que il y en a tellement, c'est monstrueux. Et sur le banc, tu peux faire sortir des Anthony Davis, des mecs comme ça.
Arrêtez de nous faire flippant, du mal comme ça, c'est pas
mais pour le coup, en France, on a quand même de quoi faire parce que on a du Elie Okobo qui est là aussi en backup. T'as du Guerchon qui est là.
Non, mais Guerchon sera là, Nando sera là.
T'as Nando qui est là, t'as Poirier qui est là aussi, qui fait toujours le staff.
Tu vois, il va y avoir un chantier au niveau de la raquette. Hein. Il va devoir faire des choix, Vincent Collet, au niveau de la raquette.
Mustapha Fall, t'as toujours du bon gros baobab et on parle pas aussi de nos Français qui pourraient être draftés assez haut la prochaine.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est peut-être un petit peu court pour eux parce qu'ils auront
19
ans pour cet été. Mais quand on voit le niveau qu'ont déjà les Alexandre Sarr et Zachary Rizaché, les mecs, ils peuvent.
Mais est-ce qu'on pourrait pas se garder ce sujet-là pour la saison de NBA?
Ouais, dans genre 4 mois.
Et préparer les JO. On pourrait faire une émission spéciale Équipe de France.
Oh, de toute façon, elle est déjà prévue, celle-là, de toute façon.
Exactement. Bon, messieurs, je crois qu'une heure et quart, on a fait quand même un sacré petit podcast super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, je suis solide, là. Une heure et quart, je pense que c'est bien, parce que maintenant, on va se faire taper sur les doigts.
Ouais, sinon, voilà. Bon, je crois qu'on va se dire à peu près dans 3 semaines. Alors, on annonce, on est des fous, nous, au podcast basket. Donc, on va se dire à peu près dans 3 semaines, chers auditeurs et chères auditrices, pour faire, on va dire, une sorte de bilan un peu de fin de saison au niveau du championnat NBA, voir nos coups de cœur et nos coups de merguez. Qu'est-ce que vous en dites tous les deux? Ce serait pas mal?
C'est bon.
Et on va prier tous les cieux pour qu'on ne soit pas 3, mais peut-être 4.
Ah, attention.
Attention. Si vous êtes gentils, les auditeurs et les auditrices, on aura peut-être quelqu'un en plus. Mais il faut être gentil. Il faut nous laisser des 5 étoiles, des commentaires sur YouTube, les différentes applications de podcast. N'est-ce pas, messieurs? C'est important.
Tout à fait.
Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Je ne sais pas si ça existe encore, ça encore. Bon.
Aucune idée.
De toute façon, ça. Il y a plein de choses. Spotify, Deezer, n'hésitez pas. Et puis, nous, on se dit à dans 3 semaines.
À dans 3 semaines.
Messieurs, bonne soirée. À bientôt.
Bonne soirée.
Ciao tout le monde.
Ciao.